La circulation coupée dans les deux sens du côté de Boulou-Paris en raison d'un incendie. Il s'agit d'une reprise du feu datant d'hier et qui avait brûlé 100 hectares. Nous serons en direct par téléphone avec Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris, en début de ce journal. Le report des élections provinciales a été voté par le Congrès ce matin. Résultat, 47 voix pour, une voix contre et deux abstentions. Initialement prévu d'ici le 15 décembre, le scrutin devrait finalement se tenir d'ici le 30 novembre 2025. C'est aujourd'hui que se referme la conférence sur le PS2R. Cet après-midi, les participants devaient présenter les conclusions sur les 5 thèmes de ce plan, basé notamment sur la refondation et la restructuration. Politique toujours, les élus de la province des Îles étaient réunis ce matin lors d'une assemblée. Était notamment inscrit à l'ordre du jour l'examen du budget réajusté de la province pour l'année en cours. En fin de journal, nous reviendrons sur la fête de la science qui se déroule actuellement. Nous y avons consacré notre magazine Citoyen ce midi, extrait à retrouver à la fin de notre édition. Bonsoir à tous, bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Débutons ce journal avec les incendies sur le territoire et une reprise de feu à Boulou-Paris. Il avait débuté hier vers 13h30 sur une propriété près de la RP4. En raison du fort vent sur zone, l'incendie se propage désormais en direction de Nassira. La circulation est coupée dans les deux sens pour le moment et les gendarmes sont sur place. Pour en parler, nous sommes donc en direct avec le maire de Boulou-Paris, Pascal Vittori. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Pascal Vittori, que pouvez-vous nous dire un petit peu sur cet incendie qui semble plutôt important ?
Ah bah oui, il est très important puisqu'on a dû couper la circulation sur la RT1. Et en fait, la difficulté de ce feu, c'est qu'on a affaire à des vents qui sont forts et tournants. Et donc avec un feu qui part un petit peu dans toutes les directions et qui est très difficile à maîtriser.
Hier déjà, deux propriétés privées avaient été touchées. Donc c'est une reprise d'un très gros feu.
Oui, c'est une reprise d'un feu qui était parti donc sur la RP4, qui est la route qui mène à Thio. On a tous les ans des départs de feu dans cette zone de la commune, hein, que ce soit la route qui mène à Thio ou la RT1 du côté de la tribu de Wichambo. C'est une zone où il y a régulièrement des feux en période de sécheresse. Et là, donc le feu est parti d'une propriété. Il a menacé les habitations qui sont le long de la RP4. Et puis ensuite, il s'est dispersé à la fois vers les tribus de Nassira et Wichambo. Et puis là, cet après-midi, donc il s'est dirigé vers Bourake. Il a traversé la RP1. Et là, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a assez peu d'habitations dans cette direction, quoi. On espère le maîtriser dans la soirée.
D'accord. Et donc, vous le disiez, hein, c'est une zone quand même qui est souvent incendiée et souvent de la main de l'homme. C'est quelque chose qui vous inquiète ?
Ben oui, malheureusement, on est habitué. Alors, chaque année, il y a des pyromanes qui sont arrêtés par la gendarmerie. Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de dégâts. Chaque année, il y a des centaines d'hectares qui brûlent. Et quelquefois, même un petit peu plus loin sur la route. Il y a quelques semaines, là, il y a eu plusieurs départs de feu sur la tribu de Quergoa. Ça fait des dégâts à la végétation, mais ça fait des dégâts aussi aux infrastructures. La conduite d'eau de la tribu avait été brûlée. Et ce qu'on craint toujours, c'est qu'il y ait des maisons qui soient brûlées et qu'il y ait des personnes qui soient touchées et impactées directement par ce feu. C'est pour ça que la direction de la sécurité civile intervient à chaque fois avec des hélicoptères pour protéger les maisons.
Pascal Vittori, maire de Boulou-Paris, merci d'avoir été au téléphone avec nous. Pour parler, je le rappelle, de cet incendie actuellement en cours sur la commune. Je rappelle que la route est bloquée, les gendarmes sont sur place. Soyez donc prudents si vous êtes dans la zone. Plus tôt dans la journée, c'est l'ancienne boucherie au niveau de la Tamois qui a été victime d'un incendie. Un feu qui a été déclaré aux environs de 12h30, mais vite maîtrisé. 200 mètres carrés ont été brûlés. Allez, politique et un report comme une opportunité pour conclure un accord. C'est ainsi que la plupart des groupes politiques du Congrès ont justifié leur avis favorable au report des élections provinciales au plus tard au 30 novembre 2025, Elisabeth Noir.
Par 47 voix pour, une voix contre et deux abstentions, les élus du Congrès ont émis un avis favorable sur la proposition de loi organique déposée par le groupe socialiste au Sénat. Il prévoit de reporter à fin novembre 2025 les élections qui devaient avoir lieu à l'origine avant le 15 décembre 2024. un report auquel l'État est favorable, comme l'a rappelé le secrétaire général du Haut-Commissariat, Stanislas Alfonsi. Il n'est pas souhaitable d'organiser des élections dans le contexte actuel.
La première des raisons étant la situation du territoire sur le plan économique et social suite aux graves événements qui l'ont secoué depuis le 13 mai. Nous sommes ici dans une configuration qui est compliquée, difficile pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie. L'heure est premièrement à l'apaisement et à la reconstruction. Dans ce contexte, l'organisation des élections au plus tard au 15 décembre 2024 n'apparaît pas souhaitable.
Le secrétaire général ajoute qu'à côté de ces raisons sociales et économiques, des raisons politiques encouragent également à ce report. Il doit donner le temps de renouer le dialogue et de sceller un nouvel accord.
Nous avons tous dressé un constat d'échec, des discussions qui ont eu lieu pour trouver un accord de sortie de l'accord de Nouméa, comme il est coutume de dire. Cet échec est un échec partagé, c'est l'échec de tous. On ne peut que le regretter et on ne peut que chercher à en réparer les conséquences. Sur un plan politique, cela veut dire renouer le dialogue. Ça veut dire trouver les voies de la confiance, trouver les voies de la discussion, trouver les voies de l'apaisement, pour trouver les voies d'un nouvel accord. L'organisation des élections au 15 décembre 2024 constitue une contingence qui, sur un plan politique, ne favorise pas le retissage de ce dialogue et le rétablissement de cette confiance.
Lors d'un bref débat dans l'hémicycle, chaque groupe a fait connaître sa position. Sonia Bacas indique qu'à l'origine, les loyalistes étaient opposés à un report pour des questions de légitimité. Aujourd'hui, ils sont d'accord, mais la chef de file des loyalistes pose ses conditions en lançant un appel solennel à l'Union calédonienne.
Je vais me permettre de paraphraser le général de Gaulle en disant que sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « trouver un accord », ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Il faut s'en donner sincèrement les moyens, et j'insiste sur le terme sincèrement. Aussi, je voudrais demander aujourd'hui solennellement à l'Union calédonienne d'arrêter les préalables de réunions bilatérales avec l'État et de sujets uniques d'indépendance, mais d'accepter que la moitié de notre population ne veut pas de l'indépendance. Et donc, je demande à l'Union calédonienne de se mettre autour de la table avec l'État et avec cette moitié de la population qui est non indépendantiste, et de se mettre autour de la table pour parler de tout, de leur vision et de notre vision, et de la manière dont on les concilie, et tout ça de manière sincère.
Sonia Bacas demande également à l'État d'arrêter de procrastiner en disant que les élus attendent une méthode et un calendrier sur la reprise du dialogue et des actes sur la reconstruction. Un avis favorable au report sur les bancs indépendantistes également. Pour Jean-Pierre Diaoué, le chef de groupe UNI, ce nouveau délai doit permettre de créer les conditions pour que les discussions se tiennent dans la sérénité.
Nous sommes aujourd'hui dans une période de grandes difficultés que la Calédonie n'a jamais connues. Nous sommes aujourd'hui dans une période de sauvegarde, de refondation à partir du plan présenté par le gouvernement. Mais nous savons tous ici que cet avenir ne peut être durable que si l'horizon est porteur de confiance pour tous les Calédoniens. Et donc c'est à nous de le faire. Ce report nous donne une nouvelle opportunité de nous retrouver autour de la table pour pouvoir discuter, poursuivre les discussions que nous avons tenues pendant toute l'année 2023 et malheureusement n'est pas arrivé à conclure un accord. Aujourd'hui, il faut saisir cette opportunité-là.
Avis favorable également pour l'éveil océanien. Et pourtant, à l'origine, il était contre ce report des élections provinciales. Une opposition farouche et de principe, déclare même Vaimoa Mouliava.
Plusieurs raisons fondent cette position. Nous avons eu l'occasion de l'évoquer. Oui, un profond sentiment d'illégitimité. D'illégitimité qui, je le concède, puisque les services de l'État nous ont dit que vous êtes légitime parce que c'est le droit, c'est juridique, etc., etc. Mais qu'en est-il de la morale ? Qu'en est-il ? Qu'en est-il de la morale de nos positions aujourd'hui qui doivent être nourries de sincérité ?
Et finalement, devant l'unanimité, l'éveil océanien se prononce en faveur du report des provinciales. Seul dans l'hémicycle à s'exprimer contre le report, Sylvain Pabouti, membre du groupe UCF-LNCS, mais qui parlait en son nom propre, proche de la CCAT, il dénonce un passage en force pour justifier ce refus.
Mais il a fallu avoir tout ce qui s'est passé, et notamment avec 11 morts, je dirais même 13 morts, pour qu'on se rende compte aujourd'hui que ce fut un passage en force, et voilà le résultat. Et encore une fois, parce que le Conseil d'État avait donné son avis l'année dernière, mais pour moi, donc, ça constitue, donc, ça participe à cette méthode de passage en force. Donc je suis contre le report.
Sylvain Pabouti, seul élu à voter contre le report, Alozio Sacco et Kadri Leroyt se sont quant à eux abstenus. 47 élus se sont donc prononcés en faveur du report des provinciales. Et au terme de cette séance, Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement, appelle les élus à faire preuve de responsabilité pour trouver un accord global et elle rappelle que les élections ne pouvaient pas se tenir avant la fin de l'année parce que le corps électoral est toujours gelé.
Le président de la République avait suspendu la révision de dégel du corps électoral. Donc si les élections avaient eu lieu en fin d'année, elles auraient eu lieu dans une situation calédonienne très compliquée, déstabilisée, du fait de ce que nous vivons depuis plusieurs mois, mais de surcroît sur un corps électoral non recomposé. Or, cette recomposition est nécessaire, d'ailleurs que le Conseil d'État impose, et que nous avons la responsabilité de construire ensemble. Au-delà de ce sujet, ce sont des vraies perspectives d'avenir que nous souhaitons donner aux Calédoniens, avec ce report qui ne doit pas être inutile, mais qui doit être un temps de travail et de responsabilité pour tous les élus politiques de la Nouvelle-Calédonie. Et il faut nous mettre au travail le plus rapidement possible.
Pour Calédonie Ensemble, enfin, il était impossible d'organiser des élections en décembre. Et il faut maintenant prendre le temps d'aboutir à un accord, déclare à son tour Philippe Dunoyer.
Très favorable à ce report. C'est quasiment une unanimité. Il y a plus de voix pour aujourd'hui qu'en début d'année lorsqu'il s'était agi du premier report. Et je pense que ça traduit, en tout cas c'est notre vœu, la nécessité de se donner un temps, véritablement cette fois-ci, pour engager les discussions et dégager un accord. Rien n'est plus important que le redressement économique et social et la conclusion d'un accord. Je crois que c'est la logique qui a présidé au dépôt de cette proposition de loi. C'est la logique dans laquelle elle a été présentée et c'est celle dans laquelle on s'inscrit nous.
Cet avis favorable du Congrès est une nouvelle étape pour le report des élections provinciales. La semaine dernière, c'est la commission des lois du Sénat qui s'était prononcée en faveur du report. Celui-ci doit être acté maintenant par une loi organique. Elle sera examinée dès demain 23 octobre par le Sénat et son examen en séance publique est prévu le 6 novembre par l'Assemblée nationale.
La séance avait débuté par le remplacement de Charles Wachétine à la commission permanente. L'élu du groupe UNI avait présenté sa démission le 9 octobre. Son groupe a proposé la candidature d'Inès Coité pour le remplacer, une proposition adoptée à l'unanimité.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 89% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent être plutôt inquiets après les 4 jours passés par le nouveau ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 11% à se dire plutôt rassurés au terme de cette visite. Notre question du jour maintenant, comprenez-vous la prolongation du couvre-feu pour 15 jours supplémentaires, soit jusqu'au 4 novembre? Si vous comprenez cette prolongation, vous tapez 1. Si vous ne la comprenez pas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. 17h58, première pause dans ce journal avant de voir en détail les conclusions du PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction du gouvernement.
Kappa, termite, rat, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Anna Colombo.
Et les acteurs du monde économique, socio-économique au sens large étaient réunis depuis hier au centre Chibaou avec le gouvernement. Il s'agissait d'un grand séminaire pour travailler et aboutir le fameux plan S2R pour sauvegarde, refondation et reconstruction, Jean-François Baudin.
Nous avons maintenant une feuille de route, a déclaré le président du gouvernement, satisfait du travail accompli pour élaborer ce plan. Il est le fruit du travail du gouvernement collégial, mais aussi d'une très large consultation dont la nécessité s'était fait sentir après les émeutes du 13 mai. C'est donc un plan abouti qui va même au-delà de ce qu'on pensait, nous a dit le président du gouvernement, Louis Mapou.
On a sollicité beaucoup de monde, on a eu beaucoup de contributions. Donc de ce point de vue-là, dans une période de crise comme celle qu'on a vue, ce n'est pas anodin. Ça me semble correspondre à une attente et un réel besoin. Deuxième chose, c'est qu'il fallait créer un moment. Un moment où tout le monde peut se retrouver. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt réussi. Et puis en plus, on a eu la faveur du ministre qui est arrivé entre-temps, des débats au Congrès ce matin. Donc tout le monde est dans le move, si je peux dire les choses ainsi.
Ce PS2R a été conçu autour de quatre principes: rebâtir le lien social, retrouver la liberté, redonner du sens à la solidarité, promouvoir l'esprit d'entreprise. Et il est articulé autour de quatre thématiques: économique, santé sociale, institutionnelle et modèle sociétal. Si des propositions ont été faites sur chacun de ces thèmes, il serait trop long de toutes les détailler. On retiendra par exemple que le gouvernement souhaite prolonger les dispositifs de sauvegarde pour le dispositif de chômage partiel spécifique jusqu'à mi-2025. Et le gouvernement prévoit aussi d'augmenter le niveau des salaires en abaissant le coût du travail. Il faudra pour cela qu'une partie des produits des cotisations sociales soit transférée sur la fiscalité. Il y a aussi des mesures concernant la santé, et notamment la nécessité et la pertinence de suivre le plan d'Ocamo. Bref, un certain nombre de mesures qu'il va falloir mettre en œuvre. En tout cas, des propositions ont été faites sur chacun de ces thèmes. On retrouve Louis Mapou.
Le résultat, il est probant, puisque nous avons maintenant une feuille de route avec des mesures sur les quatre modèles. Donc il faudra voir maintenant comment tout ça va être mixé pour que ce modèle que tout le monde attend depuis un moment, on puisse voir dans quelle direction on nous projette. Donc c'est le travail qu'il nous faut faire d'ici la fin d'année. Et j'ai beaucoup de raisons de croire, hein, au vu des réactions, que les conditions sont réunies pour pouvoir y arriver.
Ce PS2R est donc une base de travail. Il reste maintenant à la mettre en œuvre. Il sera annexé au débat d'orientation budgétaire. Et il faudra aussi mener un travail avec les élus du Congrès, ce qui pourra notamment se faire dans le cadre du comité interinstitutionnel, estime Louis Mapou.
On a retenu aujourd'hui, et c'est ce qu'on a proposé déjà au Congrès quand on les a vus le jour, qu'on utilise les instances qui ont été créées dans le cadre de la résolution, puisque le S2R est inscrit dans le cadre de la résolution, mais qu'on utilise ces comités pour poursuivre la concertation, puis d'une certaine manière, le pilotage de la suite. Mais il faudra qu'on en parle, on en parle à nouveau avec eux, on en a parlé à nouveau cette semaine. Je n'ai pas de raison de croire que ça ne puisse pas se faire.
Le PS2R a recueilli un large consensus du monde socio-économique, même si quelques-uns ont souligné certaines de ses limites, par exemple des actions en faveur de la création de richesses, mais pas assez sur leur répartition. La nécessité aussi d'appeler à la réouverture des sites miniers au plus vite pour éviter une catastrophe encore plus grave sur les comptes sociaux. Des propositions prises en compte par les membres du gouvernement qui ont indiqué que le travail continuait, que toutes les suggestions étaient les bienvenues et seraient prises en compte, et qu'il nécessitait l'engagement de toutes les forces vives.
Et notez que nous reviendrons sur le PS2R dans notre édition de demain matin à 6h30 et avec notre invité de 7h30. Nous recevrons en effet Mimsy Délé, une des responsables de NCECO, pour en parler. Politique toujours, les élus de la province des Îles étaient réunis ce matin en séance publique. À l'ordre du jour, un texte relatif à la reprise de la provision pour risque financier de la créance de la CAFAT, mais aussi une modification qui fixe le taux des indemnités et le régime de couverture sociale des membres de l'Assemblée de province. Les élus ont également examiné un texte sur le budget réajusté de la province pour l'exercice 2024. Écoutez Isabelle Béraroune, élue à la province des Îles.
Ce montant a été réinscrit sur la partie investissement réajusté. C'est important, les réajustements budgétaires, parce que ça s'explique par la reprise justement du résultat de l'exercice de l'année dernière. Ça a servi à quoi? Ben, ça a servi à reporter encore des crédits sur nos priorités, notre hôtel de Ouadjabé, d'autres projets d'investissement comme le contrat de développement aussi avec l'État pour l'aménagement du quai de Tadine. Et aussi, lors de cette assemblée, nous avons voté aussi une enveloppe de 35 millions pour le dispositif minimum vieillesse pour bien terminer l'année 2024.
Ce réajustement de budget a été voté à la majorité sans le Palika qui a voté contre. Hier, c'était la SODI, le bras économique de la province des Îles, qui se réunissait pour un conseil d'administration. L'occasion de faire le point sur la situation de la société et sur ses transports maritimes et aériens. Avec la crise que traverse la Calédonie actuellement, il est d'autant plus important de penser à un nouveau modèle économique. C'est ce que tente de faire la SODI en envoyant des employés se former en métropole et à l'étranger en vue d'une professionnalisation des transports inter-îles, explique Isabelle Béaroune.
Avec les événements qui se sont passés, la situation est très difficile. On a décidé hier en conseil d'administration de la SODIP de faire un point sur la trésorerie de nos filiales, un point sur les conventions engagement de la SODIP et aussi des mesures à envisager, comme par exemple au niveau du transport pour professionnaliser nos employés justement en vue de permettre à Air Loyauté de monter en compétence. Bien sûr, on a parlé aussi de restructuration. Hein. La plupart de nos filiales sont déficitaires. Il faut qu'on pense à la restructuration, à la mutualisation des moyens et aussi à la solidarité au niveau politique entre nous les élus pour pouvoir bien terminer cette mandature.
Isabelle Béarounet, élue à la province des Îles. Autre inquiétude, malgré la reprise des croisières, la SODIL constate que le taux de fréquentation des hôtels des Îles est encore trop bas pour parler de reprise du tourisme. 18h05, deuxième et dernière publicité dans ce journal et nous irons faire un tour dans le Pacifique. À tout de suite.
Rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Envie de lui faire plaisir? Offrez-lui un bijou Créator. Créator, c'est plus de 4000 références et autant d'idées cadeaux. Deux adresses, Alma et 7e kilomètre. Créator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Anna Colombo.
L'actualité dans la région avec un important rendez-vous à Apia en fin de semaine. La capitale des Samoa va en effet accueillir la 27e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette réunion biennale sera surtout une grande première régionale car jamais auparavant l'organisation de ce sommet n'avait été confiée à une nation insulaire du Pacifique. La première ministre du Samoa, Fiamme Naomi Mataafa, à qui a été confiée cette responsabilité, a déclaré que, je la cite, « Unis par l'histoire et portés par l'avenir, nous nous réunissons pour trouver des solutions aux défis mondiaux, du changement climatique à l'incertitude économique, de la justice sociale au progrès technologique. » Les petits États insulaires de la zone n'ont pas été oubliés. Leur vulnérabilité se trouvera en tête de notre ordre du jour, a annoncé la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Notez que le roi Charles III participera à ce sommet au Samoa, le roi d'Angleterre qui est actuellement en Australie pour sa première visite officielle.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Retour à l'actualité sur le territoire. Une minute de silence observée dans les collèges et lycées du territoire ce matin. Les élèves ont rendu hommage aux enseignants Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés tous deux par des terroristes islamistes. Comme en métropole il y a quelques jours, chaque établissement calédonien était appelé à s'organiser selon les horaires et modalités que les équipes pédagogiques jugeront les plus appropriées pour rendre hommage. Au collège de Magenta, la minute de silence a été observée lors de la troisième heure de cours ce matin. Minute de silence accompagnée d'explications et d'un échange avec les élèves, explique Jean-Pascal Rivano, le directeur du collège.
Expliquer ce devoir de mémoire, de transmission, avec le moment clé, la minute de silence, qui permettra justement de prendre ce temps d'hommage des élèves et de la communauté éducative envers ces enseignants assassinés. Il est donc important d'échanger, de travailler autour de la République, des valeurs de respect, des valeurs de transmission, de l'engagement de chacun.
Si l'hommage a été respecté au collège de Magenta, ce n'est pas le cas partout en métropole. 119 incidents ont été relevés pendant la minute de silence. Allons maintenant du côté de Dumbéa. Le collège Edmé Varin d'Auteuil organisait ce matin un forum des métiers de la défense et de la sécurité. Dans la cour du collège, tous les élèves de 3e se sont succédés sur les différents stands. Grâce à la classe de défense qui a organisé ce forum, les jeunes ont pu rencontrer des pompiers, des gendarmes, des policiers ou encore des représentants de l'armée de l'air et SNU, Service National Universel. Kylian, Tessa, Keliana et Georges font partie de cette classe de défense.
Nous avons un partenariat avec la marine de Nouvelle-Calédonie, plus avec le POM, l'Auguste Bénévique.
C'est très important pour nous, surtout les troisièmes, de venir poser des questions sur tous les métiers.
Ça peut très bien leur servir, comme il y en a certains qui ont déjà des idées, mais qui ne pensaient pas que ça pouvait être intégré dans les corps de métiers de l'armée.
C'est particulièrement les classes de 3e. Ils viennent pendant leur heure de cours, qu'on a bien demandé aux professeurs. Et ensuite, durant la récréation, tout le monde peut venir voir. Donc 5e, 4e et 6e, ils peuvent, mais particulièrement les 3e pendant les cours.
J'ai ressenti de l'admiration par rapport à la police municipale, ou encore aux pompiers, que pendant les émeutes, ils ont beaucoup galéré.
Le forum des métiers s'est achevé à 11h30, mais le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Au Mont d'Or, c'était jour d'élection aujourd'hui dans les 12 écoles de la commune. Près de 2000 élèves des classes de CE1 au CM2 votent en effet pour élire leurs représentants dans le prochain conseil municipal junior. Il comprendra 2 conseillers municipaux juniors par école, soit 24 conseillers qui seront installés officiellement le mercredi 6 novembre à la mairie du Mont d'Or.
RRB 18h11.
Ce midi, notre magazine Citoyen vous propose d'en savoir plus sur la fête de la science. L'événement a débuté vendredi dernier sur le territoire et déjà des centaines de curieux ont assisté aux différentes activités gratuites proposées jusqu'au 28 octobre. Cette année, le thème est Océan de savoir pour faire découvrir les problématiques liées à l'océan. Un monde encore bien inconnu de tous, souligne l'ambassadeur de l'événement, le champion du monde de stand-up paddle, Titouan Pouillot.
Lors de l'inauguration et de l'ouverture de la fête de la science, il y avait un des chercheurs qui l'a évoqué de façon assez concrète et c'était assez parlant de dire qu'il y avait eu plus de monde dans l'espace que tout au fond dans l'eau. Donc c'est vrai que c'est assez vaste et c'est curieux. C'est vrai que quand on apprend ça, on le prend un peu en pleine figure, en disant que c'est juste à côté, on est tout le temps dessus, mais on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Ouais.
Plus d'une centaine d'ateliers sont proposés un peu partout sur le territoire. Petits et grands sont invités à participer pour découvrir ce que signifie réellement le mot science. Florent Olivier est le coordinateur de la fête de la science pour le CRESICA.
Il y a à la fois des sciences humaines et sociales et des sciences inhumaines et asociales, des sciences de la nature, des sciences bien entendu de l'océan. Mais à la fois, pour comprendre l'océan, eh bien, il y a des éléments physiques sur la météorologie, sur les courants, sur des choses très concrètes. Il faut des techniciens pour travailler là-dessus, que vous aurez l'occasion de rencontrer. Mais il y a également tous les êtres vivants qui y sont. Par exemple, sur les oiseaux marins, jeudi soir, il y a une conférence au musée maritime pour évoquer justement ces oiseaux marins, leur mode de vie et comment les préserver. Ou, par exemple, demain après-midi, également la visite du laboratoire sur les micro-algues, un style de vie complètement différent, mais là aussi l'occasion de rencontrer les gens qui travaillent dessus et qui essaient d'envisager comment en faire une filière économique pour la Nouvelle-Calédonie.
Des activités proposées notamment par le CRESICA, l'IRD, l'IFREMER ou encore l'UNC. Plusieurs journées se dérouleront d'ailleurs au sein de l'université et une des plus importantes se déroule demain, explique Sylvian Raffard-Artigue, le directeur de communication de l'UNC.
Traditionnellement, l'université organise la nuit de la science pendant la période de la fête de la science. Cette année, on a fait une journée des sciences plutôt. En raison du couvre-feu, on va terminer un petit peu plus tôt que d'habitude, mais on va la commencer vers midi 13h. Et donc, j'encourage tout le monde à regarder sur le site de l'université UNC.NC le programme, parce qu'on va avoir des expositions, des projections, une bibliothèque humaine où on pourra justement rencontrer les chercheurs, une spéciale quand même sur le hip-hop aussi, sous l'angle de la sociologie, et puis un ciné-débat. Puis le samedi, on aura une projection du documentaire Nations of Water.
De nombreuses associations du territoire sont également associées à l'événement. Frédéric Barrière, président de Fédésciences, était aussi présente lors de notre émission. Un magazine citoyen a retrouvé un podcast audio sur notre site internet rrb.nc. 18h14, c'est sur ces festivités que nous passons à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Allez, la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, au Loyauté, sur le nord-ouest, la pointe nord et Bélep, nuages et éclaircies alterneront. Ailleurs, les nuages l'emporteront accompagnés d'averses généralement faibles. Le vent sera d'est à nord-est entre 10 et 15 nœuds sur la pointe sud et au Loyauté, et entre 5 et 10 nœuds ailleurs. Sur l'ouest, il sera plus faible et de secteur variable avec des accélérations dans l'axe de certaines vallées. Les températures seront comprises entre 19 et 22 degrés. Demain matin, les nuages prendront le plus souvent l'avantage et les faibles averses généraliseront. Elles seront localement modérées sur le relief sud et ses versants. Ouest, elles seront parfois même fortes et potentiellement orageuses. Sur la pointe sud, à l'île des Pins et des Loyautés, le vent de nord-est soufflera entre 5 et 10 nœuds. Sur l'ouest, il sera faible.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. C'est la fin de cette édition.